Préface de 1756. Cette plaisanterie était si souvent imprimée qu'on n'a pas dû la mettre dans ce recueil. C'est un badinage innocent sur un livre ridicule du président d'une académie, lequel parut à la fin de 1752. C'était une chose fort extraordinaire qu'un philosophe assurât qu'il n'y a d'autre preuve de l'existence de Dieu qu'une formule d'algèbre. Que l'âme de l'homme, en s'exaltant, peut prédire l'avenir, qu'on peut se conserver la vie 300 ou 400 ans en se bouchant les pores. Plusieurs idées non moins étonnantes étaient prodiguées dans ce livre. Un mathématicien de La Haye, ayant écrit contre la première de ses propositions, ayant relevé cette erreur de mathématiques, cette querelle occasionna un procès dans les formes que le président lui intenta devant la propre académie qui dépendait de lui, et il fit condamner son adversaire comme faussaire. Cette injustice souleva toute l'Europe littéraire. C'est ce qui donna l'occasion à la petite feuille qui suit. C'est une continuelle allusion à tous les passages du livre dont le public se moquait. On y fait d'abord parler un médecin parce que dans ce livre il était dit qu'il ne fallait point payer son médecin quand il ne guérissait pas. Diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Le natif de Saint-Malo ayant été attaqué longtemps d'une maladie chronique appelée en grec philotimie et par d'aucuns philocratie, elle lui porta si violemment au cerveau et il eut de tels accès qu'il écrivit contre les médecins et contre les preuves de l'existence de Dieu. Tantôt il s'imaginait qu'il perçait la terre jusqu'au centre, tantôt qu'il bâtissait une ville latine. Quelquefois même, il avait des révélations sur la connaissance de l'âme en disséquant des singes. Enfin, il en vint au point de se croire une fois plus grand qu'un géant du siècle passé nommé Leibniz, quoiqu'il n'eût pas tout à fait 5 pieds de haut. Un de ses anciens camarades, suisse de nation, professeur La Haye, touché de son triste état, alla le voir pour lui montrer sa juste mesure. Le natif de Saint-Malo, au lieu de reconnaître l'important service du Suisse, le déclara faussaire et perturbateur de la morotimie. Le médecin Akakia, voyant que le natif de Saint-Malo était parvenu à son dernier période, composa pour sa guérison le petit remède anodin suivant, qui lui fit présenter secundum artem, selon l'art, avec toute la discrétion imaginable pour ne pas effaroucher les humeurs pécantes. Diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Rien n'est plus commun aujourd'hui que de jeunes auteurs ignorés qui mettent sur des noms connus des ouvrages peu dignes de lettres. Il y a des charlatans de toute espèce. En voici un qui a pris le nom d'un président d'une très illustre académie pour débiter des drogues assez singulières. Il est démontré que ce n'est pas le respectable président qui est l'auteur des livres qu'on lui attribue, car cet admirable philosophe qui a découvert que la nature agit toujours par les lois les plus simples et qui ajoute si sagement qu'elle va toujours à l'épargne, aurait certainement épargné au petit nombre de lecteurs capables de le lire la peine de dire deux fois la même chose dans le livre intitulé « Ses œuvres » et dans celui qu'on appelle « Ses lettres ». Le tiers au moins de ce volume est copié mot pour mot dans l'autre. Ce grand homme, si éloigné du charlatanisme, n'aurait point donné au public des lettres qui n'ont été écrites à personne et surtout ne serait point tombé dans certaines petites fautes qui se sont pardonnables qu'à un jeune homme. Je crois, autant qu'il est possible, que ce n'est point l'intérêt de ma profession qui me fait parler ainsi, mais on me pardonnera de trouver un peu fâcheux que cet écrivain traite les médecins comme ses libraires. Il prétend nous faire mourir de faim. Il ne veut pas qu'on paye les médecins quand, malheureusement, le malade ne guérit point. On ne paie point, dit-il, un peintre qui a fait un mauvais tableau. Oh, jeune homme, que vous êtes dur et injuste. Le duc d'Orléans, régent de France, ne paya-t-il pas magnifiquement le barbouillage dont Coypel dans la galerie du Palais-Royal? Un client prive-t-il d'un juste salaire son avocat parce qu'il a perdu sa cause? Un médecin promet ses soins et non la guérison. Il fait ses efforts et on les lui paye. Quoi, seriez-vous jaloux même des médecins? Que dirais-je, vous prie, un homme qui aurait par exemple 1200 ducats de pension pour avoir parlé de mathématiques et de métaphysique, pour avoir disséqué deux crapauds et s'être fait peindre avec un bonnet fourré, si le prisonnier venait lui tenir ce langage? Oh, monsieur, on vous retranche 100 ducats pour avoir écrit qu'il y a des astres faits comme des meules de moulin. 100 autres ducats pour avoir écrit qu'une comédie viendra voler votre lune et porter ses attentats jusqu'au soleil même. 100 autres ducats pour vous avoir imaginé que des comètes toutes d'or et de diamants tomberont sur la terre. Et vous êtes taxé à 300 ducats pour avoir affirmé que les enfants se forment par attraction dans le ventre de la mer, que l'œil gauche attire la jambe droite, etc., etc. On ne peut vous retrancher moins de 400 ducats pour avoir imaginé de connaître la nature de l'âme par le moyen de l'opium et en disséquant des têtes de géants, etc., etc. Il est clair que le pauvre philosophe perdrait de compte fait toute sa pension. Serait-il bien aise après cela que nous autres médecins nous nous moquions de lui et que nous assurassions que les récompenses sont faites que pour ceux qui écrivent des choses utiles et non pas pour ceux qui ne sont connus dans le monde que par l'envie de se faire connaître? Ce jeune homme inconsidéré reproche à mes confrères, les médecins, de n'être pas assez hardi. Il dit que c'est au hasard et aux nations sauvages qu'on doit les seuls spécifiques connus et que les médecins n'en ont pas trouvé un. Il faut lui apprendre que c'est la seule expérience qu'il a pu enseigner aux hommes les remèdes que fournissent les plantes. Hippocrate, Boerhaave, Chirac et Sénaque n'aurait jamais certainement deviné, en voyant l'arbre du quinquina, qu'il doit guérir la fièvre, ni en voyant la rhubarbe qu'elle doit purger, ni en voyant des pavots qu'ils doivent assoupir. Ce qu'on appelle hasard peut seul conduire à la découverte des propriétés des plantes, et les médecins ne peuvent faire autre chose que de conseiller ces remèdes suivant les occasions. Ils en inventent beaucoup avec le secours de la chimie. Ils ne se vantent pas de guérir toujours, mais ils se vantent de faire tout ce qu'ils peuvent pour soulager les hommes. Le jeune plaisant qui les traite si mal a-t-il rendu autant de services au genre humain que celui qui tira contre toute apparence des portes du tombeau le maréchal de Saxe après la victoire de Fontenoy? Notre jeune raisonneur prétend qu'il faut que les médecins ne soient plus qu'empiriques et leur conseille de bannir la théorie. Que feriez-vous d'un homme qui voudrait qu'on se servît plus d'architectes pour bâtir les maisons, mais seulement des maçons qui tailleraient des pierres au hasard? Il donne aussi le sage conseil de négliger l'anatomie. Nous aurons cette fois les chirurgiens pour nous. Nous sommes seulement étonnés que l'auteur, qui a eu quelques petites obligations aux chirurgiens de Montpellier, dans des maladies qui demandaient une grande connaissance de l'intérieur de la tête et de quelques autres parties du ressort de l'anatomie, en ait si peu de reconnaissance. Le même auteur, peu savant apparemment dans l'histoire, en parlant de rendre les supplices des criminels utiles et de faire sur leur corps des expériences, dit que cette proposition n'a jamais été exécutée. Il ignore ce que tout le monde sait, que du temps de Louis XI, on fit pour la première fois en France, sur un homme condamné à mort, l'épreuve de la taille, que la feu reine d'Angleterre fit essayer l'inoculation de la petite vérole sur quatre criminels, et qu'il y a d'autres exemples pareils. Mais si notre auteur est ignorant, on est obligé d'avouer qu'il a en récompense une imagination singulière. Il veut, en qualité de physicien, que nous nous servions de la force centrifuge pour guérir une apoplexie et qu'on fasse pirouetter le malade. Ah, l'idée à la vérité n'est pas de lui, mais il lui donne un air fort neuf. Il nous conseille d'enduire un malade de poirésine ou de percer sa peau avec des aiguilles. Oh, s'il n'exerce jamais la médecine et qu'il propose de tels remèdes, il y a grande apparence que ces malades suivront l'avis qu'il leur donne de ne point payer le médecin. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que ce cruel ennemi de la faculté, qui veut qu'on nous retranche notre salaire si impitoyablement, propose pour nous adoucir de ruiner les malades. Il ordonne, oh car il est despotique, que chaque médecin ne traite qu'une seule infirmité, de sorte que si un homme a la goutte, la fièvre, le dévoiement, mal aux yeux et mal à l'oreille, il lui faudra payer 5 médecins au lieu d'un. Mais peut-être aussi que son intention est que nous n'ayons chacun que la 5e partie de la rétribution ordinaire. Je reconnais bien là sa malice. Bientôt, on conseillera aux dévots d'avoir des directeurs pour chaque vice, un pour l'ambition sérieuse des petites choses, un pour la jalousie cachée sous un air dur et impérieux, un pour la rage de cabaler beaucoup plus pour des riens, un pour d'autres misères. Mais non, ne nous égarons point et revenons à nos confrères. Le meilleur médecin, dit-il, est celui qui raisonne le moins. Il paraît être en philosophie aussi fidèle à cet axiome que le père Cana l'était en théologie. Cependant, malgré sa haine contre le raisonnement, on voit qu'il a fait de profondes méditations sur l'art de prolonger la vie. Premièrement, il convient avec tous les gens sensés, et c'est de quoi nous le félicitons, que nos pères vivaient 800 à 900 ans. Ensuite, ayant trouvé tout seul et indépendamment de Leibniz, que la maturité n'est point l'âge de la force, l'âge viril, mais que c'est la mort, il propose de reculer ce point de maturité, comme on conserve des œufs en les empêchant d'éclore. C'est un beau secret, et nous lui conseillons de se faire bien assurer l'honneur de cette découverte dans quelque poulailler ou par sentence criminelle de quelque académie. On voit par le compte que nous venons de rendre que si ces lettres imaginaires étaient d'un président, elles ne pourraient être que d'un président de Bedlam et que sont incontestablement, comme nous l'avons dit, d'un jeune homme qui s'est voulu parer du nom de sage, respecté comme on sait dans toute l'Europe et qui a consenti d'être déclaré grand homme. Nous avons vu quelquefois au carnaval en Italie Arlequin déguisé en archevêque, mais on démêlait bien vite Arlequin à la manière dont il donnait la bénédiction. Tôt ou tard, on est reconnu. Cela rappelle une fable de La Fontaine, livre 5, fable 21. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Ah, ici, l'on voit des oreilles toutes entières. Tout considéré, nous déférons à la Sainte Inquisition le livre imputé au président et nous nous en rapportons aux lumières infaillibles de ce docte tribunal auquel on sait que les médecins ont tant de foi. Décret de l'Inquisition de Rome. Nous, P. Pancras, etc., inquisiteurs pour la foi, avons lu la diatribe de Monseigneur la Caquilla, médecin originaire du pape, sans savoir ce que veut dire diatribe, et n'y avons rien trouvé de contraire à la foi et au décret tal. Il n'en est pas de même des œuvres et lettres du jeune inconnu déguisé sous le nom d'un président. Nous avons, après avoir invoqué le Saint-Esprit, trouver dans les œuvres, c'est-à-dire dans l'in quarto de l'inconnu, force proposition téméraire, malsonnante, hérétique et sentant l'hérésie. Nous les condamnons collectivement, séparément et respectivement. Nous anathémisons spécialement et particulièrement l'essai de cosmologie, où l'inconnu, aveuglé par les principes des enfants de Bélial et accoutumé à trouver tout mauvais, insinue contre la parole de l'Écriture que c'est un défaut de la Providence, des araignées prennent les mouches, et dans laquelle cosmologie, l'auteur fait ensuite entendre qu'il n'y a d'autre preuve de l'existence de Dieu que dans Z égale à BC divisé par A plus B. Or, ces caractères, étant tirés du grimoire et visiblement diaboliques, nous les déclarons attentatoires à l'autorité du Saint-Siège. Et comme, selon l'usage, nous n'entendons pas un mot aux matières qu'on nomme de physique, mathématique, dynamique, métaphysique, etc., nous avons enjoint au révérend professeur de philosophie du Collège de la Sapience d'examiner les œuvres et les lettres du jeune inconnu et de nous en rendre un compte fidèle. Ainsi Dieu leur soit en aise. Jugement des professeurs du Collège de la Sapience. Premièrement, nous déclarons que les lois sur le choc des corps parfaitement durs sont puérées des imaginaires, attendu qu'il n'y a aucun corps connu parfaitement dur, mais bien des esprits durs sur lesquels nous avons enfin tâché d'opérer. Deuxièmement, l'assertion que le produit de l'espace par la vitesse est toujours un minimum nous a semblé fausse, car ce produit est quelquefois un maximum, comme Leibniz le pensait et comme il est prouvé. Il paraît que le jeune auteur n'a pris que la moitié de l'idée de Leibniz, et en cela nous le justifions de n'avoir eu jamais une idée de Leibniz tout entière. Troisièmement, nous adhérons en outre à la censure que Monsignor Krakakia, médecin du pape et tant d'autres, ont fait des œuvres du jeune pseudonyme, et surtout de la Vénus physique. Nous conseillons au jeune auteur, quand il procédera avec sa femme, s'il en a une, à l'œuvre de la génération, de ne plus penser que l'enfant se forme dans l'utérus par le moyen de l'attraction. Et nous exhortons, s'il commet le péché de la chair, à ne pas envier le sort des colimaçons en amour, ni celui des crapauds, et à limiter moins le style de Fontenelle quand la maturité de l'âge aura formé le sien. Nous venons à l'examen des lettres que nous avons jugées contenir par un double emploi vicieux presque tout ce qui est dans les œuvres, et nous exhortons à ne plus débiter deux fois la même marchandise sous des noms différents, parce que cela n'est pas d'un honnête négociant comme il devrait l'être. Examen des lettres d'un jeune auteur déguisé sous le nom d'un président. Premièrement, il faut d'abord que le jeune auteur apprenne que la prévoyance n'est point appelée dans l'homme prévision, que ce mot prévision est uniquement consacré à la connaissance par laquelle Dieu voit l'avenir. Il est bon qu'il sache la force des termes avant de se mettre à écrire. Il faut qu'il sache que l'âme ne s'aperçoit point elle-même. Elle voit des objets et ne se voit pas. C'est là sa condition. Le jeune écrivain peut aisément réformer ses petites erreurs. Deuxièmement, il est faux que la mémoire nous fasse plus perdre que gagner. Le candidat doit apprendre que la mémoire est la faculté de retenir des idées et que sans cette faculté, on ne pourrait pas seulement faire un mauvais livre, ni même presque rien connaître, ni se conduire sur rien, on serait absolument imbécile. Il faut que ce jeune homme cultive sa mémoire. Troisièmement, nous sommes obligés de déclarer ridicule cette idée que l'âme est comme un corps qui se remet dans son état après avoir été agité, et qu'ainsi l'âme revient à son état de contentement ou de détresse, qui est son état naturel. Le candidat s'est mal exprimé. Il voulait dire apparemment que chacun revient à son caractère, qu'un homme, par exemple, après s'être efforcé de faire le philosophe, revient aux petitesses ordinaires, etc. Mais des vérités si triviales ne doivent pas être redites. C'est le défaut de la jeunesse de croire que les choses communes peuvent recevoir un caractère de nouveauté par des expressions obscures. Quatrièmement, le candidat se trompe quand il dit que l'étendue n'est qu'une perception de notre âme. S'il fait jamais de bonnes études, il verra que l'étendue n'est pas comme le son et les couleurs, qui n'existent que dans nos sensations, comme le sait tout écolier. Cinquièmement, à l'égard de la nation allemande qu'il vilipende et qu'il traite d'imbécile en termes équivalents, cela nous paraît ingrat et injuste. Ce n'est pas tout de se tromper, il faut être poli. Il se peut faire que le candidat crût inventer quelque chose après Leibniz, mais nous dirons à ce jeune homme que ce n'est pas lui qui a inventé la poudre. Sixièmement, nous croyons que l'auteur n'inspire à ses camarades quelques petites tentations de chercher la pierre philosophale. Car, dit-il, sous quelque aspect qu'on la considère, on ne peut en prouver l'impossibilité. Il est vrai qu'il avoue qu'il y a de la folie à employer son bien à la chercher. Mais comme en parlant de la somme du bonheur, il dit qu'on ne peut démontrer la religion chrétienne et que cependant bien des gens la suivent, il se pourrait, à plus forte raison, que quelques personnes se ruinassent à la recherche du grand œuvre, puisqu'il est possible, selon lui, de le trouver. Septièmement, nous passons plusieurs choses qui fatigueraient la patience du lecteur et l'intelligence de monsieur l'inquisiteur. Mais nous croyons qu'il sera fort surpris d'apprendre que le jeune étudiant veuille absolument disséquer des cerveaux de géants hauts de 12 pieds et des hommes velus portant queue pour sonder la nature de l'intelligence humaine, qu'avec de l'opium et des rêves, il modifie l'âme, qu'il fasse naître des anguilles grosses, d'autres anguilles avec de la farine délayée et des poissons avec des grains de blé. Nous prenons cette occasion de divertir monsieur l'inquisiteur. Huitièmement. Mais monsieur l'inquisiteur ne rira plus quand il verra que tout le monde peut devenir prophète, car l'auteur ne trouve pas plus de difficulté à voir l'avenir que le passé. Il avoue que les raisons en faveur de l'astrologie judiciaire sont aussi fortes que les raisons contre elle. Ensuite, il assure que les perceptions du passé, du présent et de l'avenir ne diffèrent que par le degré d'activité de l'âme. Il espère qu'un peu plus de chaleur et d'exaltation dans l'imagination pourra servir à montrer l'avenir, comme la mémoire montre le passé. Nous jugeons unanimement que sa cervelle est fort exaltée et qu'il va bientôt prophétiser. Nous ne savons pas encore s'il sera des grands ou des petits prophètes, mais nous craignons fort qu'il ne soit prophète de malheur, puisque dans son traité du bonheur même, il ne parle que d'affliction. Il dit surtout que tous les fous sont malheureux. Nous faisons à tous ceux qui le sont un complément de condoléances, mais si son âme exaltée a vu l'avenir, n'a-t-elle pas vu un peu de ridicule? Neuvièmement, il nous paraît avoir quelque envie d'aller aux terres australes, quoi qu'en lisant son livre, on soit tenté de croire qu'il en revient. Cependant, il semble ignorer qu'on connaît, il y a longtemps, la terre de Frédéric Henry, située par-delà le 40e degré de latitude méridionale. Mais nous l'avertissons que si au lieu d'aller aux terres australes, il prétend naviguer tout droit directement sous le pôle arctique, personne ne s'embarquera avec lui. Dixièmement, il doit encore être assuré qu'il lui sera difficile de faire comme il le prétend, un trou qui aille jusqu'au centre de la Terre, où il veut apparemment se cacher de honte d'avoir avancé de telles choses. Ce trou exigerait qu'on excavât au moins 300 ou 400 lieues de pays, ce qui pourrait déranger le système de la balance de l'Europe. On ne le suivra pas dans son trou, non plus que sous le pôle. Quant à la ville latine qu'il veut bâtir, nous sommes d'avis qu'on la mette au bord de ce trou. Pour conclusion, nous prions M. le docteur Akakia de lui prescrire des tisanes rafraîchissantes. Nous l'exhortons à étudier dans quelque université et à y être modeste. Si jamais on envoie quelques physiciens vers la Finlande pour vérifier, s'il se peut, par quelques mesures, ce que Newton a découvert par la sublime théorie de la gravitation et des forces centrifuges, s'il est nommé de ce voyage qui ne cherche point continuellement à s'élever au-dessus de ses compagnons, qu'il ne se fasse point peindre seul aplatissant la terre, ainsi qu'on peint Atlas portant le ciel, comme si on avait changé la face de l'univers pour avoir été se réjouir dans une ville où il y a garnison suédoise. Qu'il ne cite pas à tout propos le cercle polaire. Si quelque compagnon d'études vient lui proposer avec amitié un avis différent du sien, s'il lui fait confidence qu'il s'appuie sur l'autorité de Leibniz et de plusieurs autres philosophes, s'il lui montre en particulier une lettre de Leibniz qui contredise formellement notre candidat, que le dit candidat n'aille pas s'imaginer sans réflexion et crier partout qu'on a forgé une lettre de Leibniz pour lui ravir la gloire d'être un original. Qu'il ne prenne pas l'erreur où il est tombé sur un point de dynamique absolument inutile dans l'usage pour une découverte admirable. Si ce camarade, après lui avoir communiqué plusieurs fois son ouvrage, dans lequel il le combat avec la discrétion la plus polie et avec éloge l'imprime de son consentement, qu'il se garde bien de vouloir faire passer cet ouvrage de son adversaire pour un crime de lèse-majesté académique. Si le camarade lui a avoué plusieurs fois qu'il tient la lettre de Leibniz, ainsi que plusieurs autres, d'un homme mort il y a quelques années, que le candidat n'en tire pas avantage avec malignité, qu'il ne se serve pas à peu près des mêmes artifices dont quelqu'un s'est servi contre les Méron, les Cassini et d'autres vrais philosophes, qu'il n'exige jamais dans une dispute frivole qu'un mort ressuscite pour rapporter la minute inutile d'une lettre de Leibniz, et qu'il réserve ce miracle pour le temps où il prophétisera, qu'il ne compromette personne dans une querelle de néant que la vanité veut rendre importante, et qu'il ne fasse point intervenir les dieux dans la guerre des rats et des grenouilles, qu'il n'écrive point lettre sur lettre à une grande princesse pour forcer au silence son adversaire et pour lui lier les mains, afin de l'assassiner à loisir. Que dans une misérable dispute sur la dynamique, il ne fasse point sommer par un exploit académique à un professeur de comparaître dans un mois. Qu'il ne le fasse point condamner par contumace, comme ayant attenté à sa gloire, comme forgeur de lettres et faussaire. Et surtout, quand il est évident que les lettres de Leibniz sont de Leibniz, et qu'il est prouvé que les lettres, sous le nom d'un président, n'ont pas été plus reçues de ses correspondants que lues du public, qu'il ne cherche point à interdire à personne la liberté d'une juste défense, qu'il pense qu'un homme qui a tort et qui veut déshonorer celui qui a raison se déshonore lui-même, qu'il croit que tous les gens de lettres sont égaux, et il gagnera cette égalité, qu'il ne s'avise jamais de demander qu'on n'imprime rien sans son ordre. Nous finissons par l'exhorter à être docile, à faire des études sérieuses et non des cabales vaines, car ce qu'un savant gagne en intrigue, il le perd en génie, de même que dans la mécanique, ce qu'on gagne en temps, on le perd en force. On a vu que trop souvent, des jeunes gens qui ont commencé par donner de grandes espérances et de bons ouvrages, finir enfin par n'écrire que des sottises, parce qu'ils ont voulu être des courtisans habiles au lieu d'être d'habiles écrivains, parce qu'ils ont substitué la vanité à l'étude et la dissipation qui affaiblit l'esprit au recueillement qui le fortifie, On les a loués et ils ont cessé d'être louables. On les a récompensés et ils ont cessé de mériter des récompenses. Ils ont voulu paraître et ils ont cessé d'être. Car lorsque dans un auteur, une somme d'erreur est égale à une somme de ridicule, le néant vaut son existence. Nota bene. Ce remède bénin fit un effet contraire à celui que toutes les facultés espéraient, comme il arrive assez souvent. La bile du natif de Saint-Malo en fut exaltée encore plus que son âme. Il fit brûler impitoyablement l'ordonnance du médecin et le mal empira. Il persista dans le dessein de faire ses expériences.